Radio Okapi. Okapi.
Okapi Service avec Jody Daniel Kachama. Okapi.
Bonjour fidèles auditeurs et bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir. Examen d'État, édition 2020-2021, comment réduire les risques de fraude et de tricherie? Eh bien, on en parle dans cette émission. Nous avons Aline Jacques Tati et Mwaku Pemba. Il est coordinateur national de la Fédération nationale des enseignants et éducateurs sociaux du Congo. Monsieur Jacques Tati, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien au Capi Service. Si tout marche, si tout va bien, on aura également en ligne monsieur Odia Moussungaï, inspecteur général intérimaire au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Serge Bondedi, coordonnateur de la campagne École des Amombo Ngoté, sera également de la partie. Et dans la deuxième tranche de Capi Service, nous allons parler des résultats. Donc on va découvrir les résultats du sondage YouReport de l'UNICEF sur l'allaitement maternel exclusif. Voilà, ainsi présenté le menu de l'émission de ces jours. Pour participer, composez le 081-890-63-94. Écrivez-nous également à service@radiocapi.net. Mimi Kindou à la mise en onde, Tati Mapoukou assure la coordination et la réalisation de cette émission que présente Jody Daniel Kachama sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Excellente condition d'écoute du magazine de la vie au quotidien.
Okapi Retro. Faut revivre le tube des années 60, 70 et 80.
Balingi babina musique Africa.
Africa. Toua bongo et toua bongo.
Rumba, pop, disco, slow. Des heures de musique congolaise, africaine, européenne et américaine. Lundi et mardi à partir de 23h et le dimanche à 21h.
Bien, nous parlons à présent de l'examen d'État édition 2020-2021. Bien, la grande session commence dès mars ce lundi, 30 août, sauf changement des dernières minutes. Sur l'ensemble du territoire national, les finalistes du secondaire ont eu suffisamment le temps de se préparer pour affronter ces épreuves qui sanctionnent les formations au niveau secondaire. La participation à cet examen est conditionnée par le paiement des frais fixés par chaque gouverneur de province. En dehors de ces frais, certains responsables des écoles exigent d'autres contributions aux élèves. Pour les observateurs avertis, ces frais supplémentaires servent souvent à des pratiques de fraude et des tricheries lors de la session. Alors que faire pour que cette session se passe dans la sérénité? Que faire pour réduire tant soit peu les risques de corruption et des fraudes et tricheries? Eh bien, on en parle aujourd'hui dans cette émission. Nous avons déjà en ligne monsieur Jacques Tati, Mwaku Pemba, coordinateur national de la Fédération des enseignants et éducateurs sociaux du Congo. Monsieur Jacques Tati, encore une fois, bonjour.
Bonjour, monsieur Jumali.
Bien. Alors, l'examen d'État, c'est déjà dans... on aborde déjà les derniers virages, c'est dans quelques jours. Les enfants se sont suffisamment préparés. Alors, d'après vous, qu'est-ce qui doit être fait à ce stade pour que tout se passe dans le calme, dans la sérénité, et surtout réduire les risques de fraude et de tricherie?
Merci pour la question. Je crois que nous sommes vraiment sur la ligne droite de cette passation des épreuves certificatives pour l'année scolaire 2020 et 2021. Je crois qu'en amont, l'État a pris toutes les dispositions pour préparer ces épreuves certificatives, mais il faudrait que cette logique aille jusqu'à la fin. Vous savez que nous sommes dans une période de la COVID et l'année scolaire en cours a connu beaucoup de dents de scie avec des interruptions dues à la pandémie. Et c'est comme ça que je crois que le pouvoir organisateur s'est arrangé pour que les enfants récupèrent suffisamment le temps. Donc, du côté élève, il est question que qu'ils mettent toutes les batteries en marche, donc de capitaliser toutes les petites énergies qui sont restées afin que ils affrontent dignement ces examens comme il fallait. Mais du côté aussi du pouvoir organisateur, je crois que toutes les batteries doivent être mises en marche pour que dans un climat d'abord de sérénité, les examens se passent comme il se devrait. C'est vrai, il est question que nous le savons nous tous, que depuis belle lurette, les pratiques de mercenariat a pris possession de ces examens en tout temps. Mmh. Alors, ce sont des pratiques que nous sommes en train de fustiger, de rejeter même. Il faudrait que l'État ouvre les yeux. Parce que on pourrait se poser la question comment en réalité ces pratiques se font, alors que c'est l'État, le premier pouvoir organisateur qui prépare ces examens, qui est censé protéger ces épreuves, mais on arrive à la fin, on dit bon voilà, il y a des fuites entre guillemets comme on dit. Qui en est l'auteur et pourquoi on arrive à ça? Donc l'État doit veiller sur ses inspecteurs. La majorité des inspecteurs, vous savez que ils ont des écoles privées, sont des promoteurs à gauche, à droite. Et généralement, ces promoteurs, ces inspecteurs promoteurs, font le double jeu. Parce qu'ils veulent à tout prix que leurs écoles réussissent à la fin de ces épreuves certificatives. Mmh. Alors, ils ont créé des pratiques au sein de leurs équipes de composition, faire sortir les examens et les traiter afin que leurs élèves réussissent. Donc, de ce côté-là, l'État, donc je crois que l'inspecteur général qui passera aussi à cette émission m'écoute, il faudrait que l'État veille. Il faudrait que l'IG veille pour dénicher ces faux inspecteurs, entre guillemets, permettez le terme.
Les inspecteurs promoteurs des écoles.
Ah oui, il faudrait vraiment que on y veille pour que ces inspecteurs qui font des genres de pratiques comme ça, qu'ils soient punis, afin que ces épreuves certificatives, que tous les enfants partent au même pied d'égalité avec le même chance et que le meilleur réussit. Voilà un peu ce que je peux dire d'entrée de jeu.
Bien. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire aux élèves qui sont, on suppose qu'ils se sont bien préparés, c'est un moment où ils sont stressés à l'idée qu'ils vont bientôt passer ces épreuves. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Comment peuvent-ils, quelle attitude peuvent-ils adopter en ce moment?
Bon, je voudrais profiter de vos antennes pour lancer un appel pathétique et un message d'encouragement à l'endroit de tous ces apprenants qui vont affronter ces épreuves certificatives. Je crois qu'ils ne doivent pas avoir peur. Ce sont l'État a mis en place ces épreuves pour essayer de mesurer, de voir si durant toutes les 6 années qu'ils ont passées dans les cursus secondaires, ils ont pu retenir quelque chose. Donc, il faudrait que qu'ils n'aient pas peur, qu'ils se mettent à fond, qu'ils donnent le mieux de ce qu'ils ont préparé, et enfin de réussir. Je crois qu'ils ne doivent pas avoir peur. Il n'y a pas quelque chose de grave. Toutes les matières qu'on va poser là, ce sont les matières qu'ils ont eues à répéter ensemble dans les salles de classe avec le professeur. Donc, ils sont vraiment, ils méritent nos encouragements et nous les appelons à garder le calme, à chasser tous les stress possibles et à aller de l'avant. Et ils vont voir que ce n'est pas du charabia, ce n'est pas du sorcier. Ils vont réussir si chacun essaye d'être sérieux, de donner le mieux de soi-même.
Bien, on va accueillir les auditeurs. Platini Mbombo nous appelle de Mbandaka. Bonjour.
Je vous en prie.
Je dis bonjour, je salue les invités.
On vous écoute, Platini.
Voilà, merci beaucoup aujourd'hui. Je pense que la thématique du jour est louable, parce que comme on est presque de preuve des examens d'État. Mais moi, je voudrais quand même taper un peu une chose aujourd'hui, parce que ce qui se passe sur le terrain, ce n'est pas ce qui se passe soit ailleurs. Ici, dans la ville de Mbandaka, où je peux faire allusion, je pense que n'a pas passé, si je prends sur le fixation de le prix, parce que le gouvernement a signé une arrêté, portant fixation de prix. Mais souvent, s'il arrive au niveau de la corde, raconter sur les profs avec les élèves finalistes, souvent, il y a une modalité. Il y a d'autres corps qui disent qu'il faut amener 600 000 francs, il y a d'autres corps qui disent qu'il faut amener 400 000 francs. Là aussi, ça pose un sérieux problème. On va essayer de rencontrer quelqu'un préfère sur place. On dit que non, cette année, il y avait beaucoup de problèmes, les enfants n'ont pas beaucoup étudié, raison pour laquelle il faudrait qu'on fasse ce qu'on appelle là, les labos, là, tout ça. Alors ça pose un sérieux problème, c'est un problème qui est connu partout.
Qui demande aux élèves d'apporter 600 000 ou 400 à 600 000 francs
600 000 francs ou 400 000 francs, mais le fait fixé par le gouvernement, par le gouvernement de province, les sections ordinaires, c'était à 62 000 francs congolais. Et aussi, les prêts ordinaires, c'est 43 000 francs congolais. Donc, au total, sous fait les calculs, donc, le prêt, c'est à peu près 35 000, des choses comme ça. Mais dans chaque école, le préfet et l'institut demandent aux élèves d'amener 600 000 francs. Je témoigne et je connais comment on fait les choses. Mais si on arrive sur le terrain aujourd'hui et vous racontez sur le préfet d'une école, lui dit que non. Les enfants n'ont pas intelligent, il faut faire les labos, il faut faire ceci, cela. Il y a aussi le service de sécurité, on doit leur donner quelque chose, il y a ça. Les autorités aussi, on doit leur donner. Donc, chaque élève doit amener 600 francs et il compte aussi les épreuves à l'intérieur, tout ça. Donc, ça aussi, ça perturbe aussi. Même j'ai même un parent qui abandonne, il dit que non, moi, je ne peux pas avoir cet argent parce que le gouvernement a signé 68 000. Comment on peut arriver à 600 000 francs un élève pour passer au niveau de l'épreuve des Américains. Voilà ce qui se passe ici dans la ville de Mbandaka. Au moment où juste moi, j'ai vécu quelque chose, et aussi qui est, ça roule. Et maintenant, même aujourd'hui, je peux vous rappeler aussi une chose, ici, dans la ville de Mbandaka, où il y a beaucoup d'écoles. C'est une école conventionnée. Il y a ça qu'on appelle les collectes des dons. C'est ça qu'on appelle aussi le guichet unique pour les élèves. Donc, chaque élève amène au moins 25 000 francs congolais, à part le frais fixé par le frais fixé, mais chaque élève amène au moins 25 000 francs congolais. Ça, c'est pour le transport des préfets, tout ça. Et pour le moment, les préfets disent que non, comme on est presque à la fin, on doit demander beaucoup d'argent parce qu'après, si les enfants vont partir, et aussi, on doit acheter des motos, acheter des parcelles, tout ça. Voilà ce qui se passe. Alors, c'est que moi, je fais...
Donc, le 25 000, à part les 600 000 francs congolais...
Le 25 000 francs, oui, à oui. part le 25 000, c'est quoi? Donc, c'est ça ce qu'on dit, là, le maquis. Hein? Donc, chaque élève doit amener 25 000 francs pour les frais des maquis. Et les frais des maquis, qu'est-ce qu'on fait? On loue ça une salle, on fait associer toutes les élèves dans une même salle, et chaque élève amène 25 000 francs congolais. Et aussi, cet argent-là, c'est le caissier, c'est le préfet, c'est lui qui est chargé de recevoir la réception de cet argent. Donc, hors 600 000, hors 400 000 francs congolais, chaque élève amène au moins 25 000 francs.
C'est ça, c'est d'accord. Merci. Merci, Platini. On a.
J'ai une question, je sais pas si je vais demander à l'invité. J'ai une question, je voudrais quand même poser. Au niveau de l'épreuve des examens d'État, comment qui est censé? Parce que cette fois-ci, je pense qu'on a suivi. L'autre qui est du ministre de la scène primaire secondaire. Alors, être au niveau des salles de l'examen d'État, soit des CVA, d'abord, il faut être un agent de l'enseignement.
D'accord, qui doit être. Voilà, vous voulez savoir qui doit surveiller.
Qui doit être
dans les. Voilà.
Dans les preuves des examens. Parce qu'il
dans les salles de classe. Merci, Platini. D'accord, on va donner la parole à Pierrot de Lumbashi. Bonjour.
Bonjour Jody, Daniel, bonjour à l'invité, à tous les auditeurs de la radio Capi, c'est Pierron Pana à Lubumbashi. 2020-2021, c'est l'année caractérisée par la crise de la COVID-19. Et donc, toutes les mesures qui étaient prises par le gouvernement sanctionnaient toujours les écoles où nous avons vu les enfants chômés à la maison plusieurs mois. Alors, moi, je m'inquiète sur, d'abord, le niveau qu'ont les enfants quand on chôme 3 mois, par exemple, on n'étudie pas. Est-ce qu'on a, eu le temps de donner à ces enfants pour qu'ils puissent s'adapter et profiter et terminer peut-être les programmes nationaux? Ça, c'est une inquiétude que j'ai. Et aussi les enfants de Goma. Ça, c'est une question que je voulais poser, mais je voulais d'abord présenter ça. Les enfants de Goma qui ont eu le cataclysme qui est là-bas, qui était là-bas de l'éruption du
Nyiragongo.
Oui, ils ont fui pendant plusieurs semaines, ils ont arrêté les cours. Alors, ma question sur cette nuance-là est de savoir, est-ce que ils ont formulé le questionnaire sur le niveau qu'ont les enfants actuellement où ils ont pris seulement les programmes nationaux qu'ils ont du début jusqu'à la fin de l'année. Ça, c'est la première question que je voulais poser. La deuxième question est de savoir, nous avons eu des tractations entre l'IGAS et le ministre de la Santé et de l'enseignement plutôt. Veuillez me pardonner parce que j'aime la santé souvent. Le ministre de l'enseignement, où ils se sont tiraillés sur le P de Tenafet. Alors, la grande épreuve est celle qui est devant nous ici. Alors, est-ce qu'ils ont sensibilisé le surveillant? Ils ont appris la lutte contre la corruption. Est-ce qu'ils ont mobilisé les fonds pour payer ces gens-là afin qu'ils ne puissent pas demander aux élèves les transports? Parce que lorsque les élèves vont commencer à présenter les examens-là, et que ces gens-là sont annulés par la fin, ils vont commencer à demander, donnez-moi 5 000, nous vous laissons les examens.
Le temps de collaborer.
Donc, les élèves ont besoin de la réussite, ils vont cotiser. Un surveillant peut sortir avec 400 000, alors quand il voit les 400 000 dans ses poches pour 2 heures, 3 heures, là, il laisse. Est-ce qu'ils ont préparé pour qu'après les exécutants, qu'on n'ait pas encore d'autres sujets qui vont encore rabaisser
notre pays? Merci Pierrot. D'accord. Merci Pierrot. Gilbert Lokoa, vous êtes en Bandaka, bonjour.
Oui, bonjour la radio Kapi, et je salue aussi nos invités. Et donc, très léger, moi, je dirais, à la question de savoir si réellement on peut réduire les risques par rapport au l'État, moi, je dirais c'est impossible, hein. C'est impossible parce que tous les acteurs concernés pour ces examens sont corrompus, et même les élèves, les parents, les enseignants, y compris même l'État congolais au travers son ministère des tutelles. Tout le monde est impliqué pour cette corruption-là. Je vais donner même quelques détails. Ici, à Mbandaka, où je suis, j'ai mon petit frère qui va présenter aussi ses examens. Et du coup, dès le premier jour qu'on a commencé les cours, donc je suis allusé au premier jour qu'on a commencé l'année scolaire, le petit frère a été suffisamment outillé ou suffisamment suffisamment outillé, parce qu'il savait que non, à la fin, avant le jour de l'examen, au moment où je vais entrer dans la salle de l'examen, j'aurai avec moi toutes les réponses que je dois répondre à cet examen. Et pourquoi cela? C'est parce que tout le monde s'est content de l'argent. Les élèves ne sont pas informés convenablement, parce que même les élèves, même les parents, même les enseignants, y compris même les inspecteurs, tout le monde vise seulement l'argent. J'ai mon petit frère ici, il ne part pas au cours, Et du coup, il sait seulement que non, à la fin, j'aurais seulement donné l'argent et j'aurais seulement les réponses.
Donc ton petit frère ne s'est pas bien préparé parce qu'il compte sur la corruption.
Oui, oui, bon. Là, j'ai fait allusion à lui parce que je suis avec lui ici. Mmh. Mais je pense que c'est tout le monde.
C'est pareil aussi pour d'autres élèves.
Oui, oui, suffisamment informé parce qu'à la fin, tout le monde sait que non. Parce que si vous entrez même en contact avec les élèves qui vont présenter ces examens, les discours prononcés par ces élèves, c'est un discours purement de l'argent. Où j'aurais l'argent, on nous a demandé 600 000, 1 million, voire même pour les autres élèves, ou que j'aurais cessé l'examen. Donc, pas ce contact de l'argent.
Merci Gilbert, les autres attendent. Merci beaucoup. On va donner la parole à Benjamin de Kananga. Rapidement, bonjour Benjamin.
Bonjour monsieur, je dis Daniel, bonjour aux invités, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Quelle est votre question Benjamin?
Merci beaucoup, monsieur Jody. D'abord, je profite de votre micro pour souhaiter une bonne chance à tous les finalistes qui vont se présenter d'ici 72 heures aux épreuves de l'examen d'État. Mais monsieur Jody, je commence. Il faut d'abord préciser que la fraude et la tricherie, ces deux antivaleurs, ne datent pas d'aujourd'hui. Depuis les années 60 jusqu'à ce jour, le système éducatif est toujours caractérisé par ces antivaleurs. Pourquoi je le dis, monsieur Jody? Imaginez-vous que quand le carnet de l'examen d'État arrive, ici en province par exemple, ces carnets sont ouverts par l'UPP, peut-être en présence de certains corps enseignants, dans les différents centres pour la passation des épreuves. Comment voulez-vous que pendant que l'examen passe déjà dans les salles des classes, et le carnet sont déjà sortis, travaillés même par les enseignants, et on va commencer à communiquer les résultats dans les salles des examens. C'est très grave, mais c'est jeudi. Donc ici, moi, je pense que c'est d'abord les inspecteurs qui ne sont pas sérieux. Parce que ce sont eux qui détiennent. La plupart d'entre eux sont retenus comme chefs de centre. Ce sont eux qui sont à la base de toute cette mafia. Et autre chose, tout au début de l'émission, là, vous avez dit comment les élèves doivent se préparer aux épreuves. Mais si je vous dis aujourd'hui les élèves ne se préparent pas aux épreuves d'État, vous allez regretter. Pourquoi je ne le dis pas plus tard qu'hier? J'ai eu une discussion avec un élève. Je me permets de citer son école à l'Institut scientifique de Nkélékélé. Dans quelle option en biologie? Vous allez voir, dans cette salle-là, il y a 14 élèves. Mais ils se sont demandés, en dehors des frais demandés par l'État pour les examens, les élèves eux-mêmes se sont demandés 80 000 francs. Quand vous prenez 80 000 francs pour 14 élèves, quand même, c'est déjà un montant consistant. Et je vous pose la question, monsieur Jody, à qui profite donc cet argent? Parce qu'aucun élève ne va pas sortir avec cet argent-là dans ses poches pour aller chez lui. Donc cet argent-là...
Ça va servir à la corruption.
Ça va servir à la corruption. Voilà pourquoi ils ne sont même pas inquiétés. Ils se disent, même si je suis dans la salle des examens d'État, que je sois intelligent ou pas, le labo va venir de la part et donc directement. Voilà pourquoi aujourd'hui nous enregistrons des milliers de diplômés d'État, mais qui ne peuvent jamais nous envoyer sur les marchés.
Merci Benjamin. On va donner la parole à Monsieur Jacques Tati. Vous avez suivi les préoccupations des auditeurs. Ça tourne autour de l'argent. En cette période, les parents dépensent beaucoup. Les élèves viennent tout le temps avec les demandes d'argent. En plus des frais officiels reconnus, il y a d'autres frais supplémentaires. Alors, Monsieur Tati, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela?
Merci, Monsieur le journaliste. Je crois que tous ces éléments que les amis ont relevés ici et là sont vrais. Mais je reviens à ce que j'ai dit au début, c'est que la corruption a élu domicile dans notre système éducatif depuis bien longtemps, mais je donne plus la responsabilité aux inspecteurs au niveau national et au niveau provincial. Parce que ce sont eux qui sont le premier à faire sortir ces examens. Donc ce sont vraiment eux. Il faudrait que, comme on dit actuellement qu'on a un gouvernement des warriors entre guillemets, et que nous avons un patron au niveau du ministère de l'Éducation, donc EPST, qui dit qu'il faut remettre les pendules à l'heure, il faut que les sanctions tombent s'il y a des preuves. Parce que je sais que même pas plus tard hier,
Quelqu'un m'a appelé d'ici à Kinshasa, une école sérieuse, où on était en train de leur demander, l'école, le préfet leur demande $20 à chacun, parce que quand l'inspecteur arrivera au centre, on va lui présenter cet argent, et lui va laisser faire sortir les examens ensemble avec toute son équipe, et que les enfants trichent en ce sens-là. Donc il faudrait à
Monsieur
tout prix...
Jacques, Monsieur Jacques, on peut dire qu'en cette période, l'argent circule comme pas possible.
Tout à fait, tout à fait. L'argent circule, les masses, des milliers, hein, des milliers, ou bien des milliards de masses d'argent circulent, que ce soit au niveau de Kinshasa, au niveau de la province. Les préfets sont entrés là d'arnaquer les enfants, les élèves, les parents, et les parents connaissent, certains parents sont laxistes et savants. Donnons cet élément parce qu'il faut réussir. Donc l'argent circule et les inspecteurs connaissent ça, l'État même connaît, l'IG connaît ça très bien, même au sein de sa maison. Donc il faudrait vraiment qu'on mette un point final à ces pratiques pour que nos épreuves certificatives aient quand même de la valeur. Sinon, ça sera toujours comme derrière la maison, hein. On entre, on prend ce qu'on veut, on fait ce qu'on fait.
Pierrot de Lubumbashi nous a dit tout à l'heure que il y a par exemple il y a des élèves qui n'ont pas terminé du tout le programme. D'après lui, certains ne se sont pas bien préparés. Il a cité aussi les cas des élèves de Goma qui étaient obligés de forcer de se déplacer à cause du volcan Nyiragongo. Est-ce que il se pose la question de savoir si le programme a été complètement enseigné aux élèves?
Bon, pour la question du programme, je crois que d'abord au niveau de chaque école, les chefs d'établissement font de petites évaluations pour demander à tous ces profs s'ils ont atteint ils ont fini les programmes. Donc ça relève de chaque entité, de chaque école, de voir est-ce que nous avons fini les programmes. Si nous n'avons pas fini les programmes, comment est-ce qu'il fallait faire des séances marathon pour récupérer? Mais pour des régions à problème, à calamité, par exemple à Goma où il y a eu éruption volcanique, je crois peut-être que ça relève de la décision du gouvernement de voir que si ces enfants ont perdu encore un bon nombre du temps de passer dehors, que les écoles étaient, les enseignements étaient coupés, il faudrait peut-être recaler. Ça ne sera pas la première fois qu'on recale les examens dans une zone comme ça à cause de calamité. Donc, c'est une question qu'il faut remonter à partir de la province au niveau national, et qu'ils étudient de voir s'il y a encore du retard pour ces zones-là ou cette région-là. On peut recaler pour un petit temps, pourvu que on permette aux enseignants de terminer valablement les programmes et que les enfants, comme je l'ai dit, les enfants partent au même pied d'égalité avec tous les autres et d'affronter les épreuves certificatives en bonne et due forme.
Bien, Gilbert Lecoy nous a dit que d'après lui, les élèves ne se préparent pas du tout parce que dès le départ, ils savent qu'à la fin, on va donner l'argent, alors ils n'ont pas le temps de se préparer sérieusement. Il a donné le cas de son petit frère. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet?
Bon, ça c'est une question de la responsabilité personnelle. Hein, on doit savoir pourquoi je suis dans le cursus scolaire et qu'est-ce qui m'attend à la fin. Donc, si on doit déjà savoir ça, donc il est part de cette responsabilité de savoir que les examens, le diplôme d'État, on l'arrache après un travail. Donc, ici, il est question de dire que les enfants doivent prendre la responsabilité dès maintenant. Peut-être que c'est tard, mais aussi il y a tout un système qui est lié à ces problèmes de responsabilité. Il y a le niveau de la famille, il y a au niveau de l'école. C'est vrai, il faut dire que certains j'ai rencontré. Moi-même, je suis un homme de terrain, je suis un ancien préfet. Je connais parfois comment les choses, les us et coutumes de ces épreuves certificatives. Certains élèves croisent les bras, ils savent que bon, nous allons donner l'argent comme d'habitude et que nous aurons nos diplômes. Mais la responsabilité, il faut l'enseigner à tout le monde que si je voudrais réussir, il faudrait que je travaille. Et ça, c'est quelque chose, c'est une pédagogie qu'il faut rappeler à tout le monde, qu'on rappelle aux enfants que la réussite aux examens d'État dépend du travail qu'ils vont donner. L'argent ne sert à rien. Oui. Aujourd'hui, ils peuvent acheter les diplômes, mais demain, ils ne seront pas capables de défendre ces diplômes-là. Donc, ils doivent prendre la responsabilité aujourd'hui de leur avenir pour que ces diplômes qu'ils auront arrachés à la sueur de leur front leur profitent pour la vie de tous les temps. Voilà.
Bien, Monsieur Jacques Tati Mwakupemba, coordinateur de la Fédération nationale des enseignants et éducateurs sociaux du Congo. Merci, bonne journée et à la prochaine.
Je vous en prie, et merci de m'avoir accordé cette chance de passer en direct. Et je salue tout le monde et à bientôt.
Dialogue entre Congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais, c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h et sur Internet, sur www.radiocapi.net.
Examen d'État, édition 2020-2021, comment réduire les risques de fraude et de tricherie. Nous avons en ligne Monsieur Odia Musungai, inspecteur général intérimaire au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Monsieur Odia, bonjour.
Bonjour monsieur.
Bienvenue dans cette émission. Alors la grande session de l'examen d'État démarre lundi, sauf imprévu. Alors je pense qu'à ce niveau, toutes les batteries sont en marche, sont déjà mises en marche pour le bon déroulement de cette grande session. Alors dites-nous, dans quel état, quel est le moral des élèves en cette période et qu'est-ce qui est fait pour que les épreuves se passent en toute sérénité?
Je dois vous dire que effectivement,
il y a quelques soucis au niveau de la communication. On vous entend pas très bien. Je vais vous demander peut-être de bouger un peu. Peut-être okay. Peut-être que la liaison téléphonique va s'améliorer.
Allez, ça va maintenant? Ça va?
Oui, ça va un peu bien. Allez-y quand même.
Ok. Alors, je disais que toutes les batteries sont mises en marche, effectivement. Les mâles sont arrivés à destination dans tous les passations, sauf deux provinces éducationnelles. Ah, non, provinces éducationnelles. C'est un territoire.
Oh là là, décidément, il y a quelques soucis au niveau de la communication. Mon confrère Tati va vous rappeler pour voir comment peut-être utiliser notre numéro pour éviter cela. Alors, entre-temps, nous allons accueillir Serge Bondedi, coordonnateur de la campagne École des âmes ont voté. Serge, bonjour. Serge Bondedi, bonjour.
Bonjour, je vous écoute parfaitement.
Voilà, bienvenue. Alors, à quelques jours, disons pas, oui, quelques jours, c'est déjà le dernier virage hein, pour la grande session de l'examen d'État qui démarre déjà le lundi. Alors, on apprend que pendant cette période circule beaucoup d'argent, en plus des frais officiels. Les responsables des écoles demandent aux enfants d'autres frais. Les élèves eux-mêmes se font des cotisations. L'argent circule énormément en cette période. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet?
Ah oui, d'abord merci pour l'invitation et les sujets. C'est pas un fait nouveau, ça a toujours été ainsi à l'approche des épreuves de l'examen d'État. Et en tout cas, on observe toute forme d'antivaleur ou de faits contraires à l'éthique professionnelle. Nous, on espérait beaucoup pour le redressement avec les nouveaux leaderships, avec les nouveaux leaderships à la tête du ministère et dans les organes majeurs de gestion du ministère, pour procéder vraiment au redressement de l'examen d'État. Bon, hélas, on constate malheureusement que nous continuons à danser au rythme du même tango. Mais effectivement, il y a des abus sérieux. Vous savez, ce que je dis, c'est que ce qui se passe dans l'examen d'État dépasse tout attendement. Mais au-delà de ce qui est observé dans les écoles par les enfants, à travers des cotisations, mais il y a des cas assez inquiétants au niveau des bureaux climatisés par des hauts responsables qui parrainent des écoles. Vous avez des écoles où on échoue jamais, vous ne trouverez jamais les enfants échoués dans certaines écoles des ces pays parce que ils ont des parrains. Ce qui se passe lors de la délibération du jury national de la délibération, c'est devenu plutôt une sorte de récompense politique parce qu'on estime que s'il y a un taux d'échec élevé, cela va aller à la contre de l'audimat du président de la République, soit du premier ministre, ou soit contre le ministre en fonction. Donc, il faut permettre qu'il y ait beaucoup de réussites pour qu'on ascense le régime politique. Et ce qui fait que nous avons des diplômés qui ne savent pas défendre ces diplômes, qui sont incompétents pour la plupart des cas, je ne dirais pas tous, mais pour la plupart des cas, qui ne savent pas défendre leur domaine de prédilection. Ainsi que vous voyez nos diplômés arrivés à l'étranger sont obligés de passer par d'autres formations parce que ces diplômes ne valent presque plus rien dans d'autres pays. Alors, il est fort regrettable. En tout cas, notre souhait était celui d'accompagner le leadership actuel pour qu'il y ait vraiment des actions de redressement dans le sens aboutir à un bulletin et un diplôme mérité. Pourquoi un bulletin mérité? Parce que l'examen d'État est au fait le couronnement d'un cursus scolaire.
D'accord. Serge Bondé, un instant, on va accueillir l'inspecteur, M. Odia Moussungaï, qui est inspecteur général au ministère de l'EPST. Monsieur Odia, vous êtes de nouveau en ligne? Monsieur Odia, vous êtes en ligne?
Je suis en ligne, vous m'entendez?
D'accord, maintenant c'est bon, la communication est bonne. Oui. Alors, vous étiez en train de dire que toutes les malles des items sont déjà parties, sauf dans quelques provinces?
Oui, dans quelques coins. Je parle précisément du territoire hors frontières, Luanda-Cabinda. On se déplace aujourd'hui. Les missionnaires sont déjà en route, mais également à Bujumbura et à Nouganda, les missionnaires sont déjà également en route. Ils arriveront à destination au plus tard demain soir. Voilà.
Bien. Alors, qu'est-ce qui est fait par rapport aux frais? Il était demandé aux élèves, les frais de participation à cet examen sont fixés par les gouverneurs des provinces, mais en dehors de cela, il y a des préfets, des écoles qui demandent un peu plus d'argent aux enfants. Les parents sont en quelque sorte un peu saignés à blanc en cette période.
C'est une situation malheureuse. C'est une situation malheureuse. Personne ne peut encourager cela. Ça, c'est une antivaleur. S'il y a des chefs d'établissement qui continuent à percevoir un peu plus que ce qui est exigé par le gouverneur de province, je crois que c'est une antivaleur. Il faut combattre et il faut sévir. Il faut punir les fautifs. J'ai déjà envoyé mes chiens limiers, les inspecteurs itinérants sont en train de vérifier les cas. En tout cas, nous avons deux cas, je ne pourrais pas les citer ici sur les antennes. Nous avons traqué ces gens, ils doivent payer de leur témérité. Ce n'est pas des choses à encourager. Ces gens-là, ils s'arrangent, comme on vous l'a dit, ils appellent ça frais de suivi. Suivi, c'est-à-dire aller dans les locaux pour amadouer, je ne sais pas, les surveillants pour qu'ils soient un tout petit peu tendres. Et beaucoup d'antivaleurs, beaucoup de choses se passent à ce niveau-là. Je crois qu'il faut continuer à combattre cela. J'ai suivi à la dernière minute M. Bondedi qui est avec vous, qui dénonce certaines choses. Et c'est vrai, il faut aller un peu plus loin. Sinon, notre diplôme n'a pas de valeur. Moi-même, je suis parmi ceux qui sont allés en Belgique en 2012 pour défendre le diplôme congolais. On l'avait rebuté à cette époque. On n'avait plus accepté le diplôme congolais. Nous avons monté de stratégie à l'époque et les Belges sont venus. Je prends un exemple des Belges, ils étaient nombreux. Vous avez des Suisses, vous avez des Français, ils sont venus. Nous avons monté des stratégies ensemble, ça a réussi. Mais un peu plus tard, les choses ont encore dégénéré et nous ne pouvons pas nous fatiguer. Combattons ensemble ces maux-là. Nous devons les combattre.
Bien. Alors, qu'est-ce que vous faites, par exemple, pour mettre à l'abri de la corruption les surveillants qui seront dans les différentes salles des classes?
Les surveillants, il faut également des surveillants des surveillants. Les surveillants des surveillants, c'est-à-dire vous, moi, tout le monde, nous devons mettre la main à la pâte. Nous devons surveiller de près comme de loin. Nous avons un système que nous n'allons pas à dévoiler sur les antennes pour une sorte, allez, j'appelle cela une sorte de monitoring. On va voir comment les choses se passent à ce niveau. Mais également, il faut des surveillants sérieux, des surveillants attitrés. Vous prenez un licencié en français ou en mathématiques, il est surveillant dans une salle de classe. Ben, vous cautionnez déjà le mal. Donc ceux qui désignent les surveillants doivent être également éveillés. Là, je parle précisément des inspecteurs principaux provinciaux, ceux qui désignent les surveillants. Ils doivent être connus. C'est pratiquement des enseignants du primaire qui sont appelés à surveiller. Ce sont ces enseignants-là. Mais si on les recrute vaille que vaille, nous n'aurons jamais vu le bout du tunnel. Il faut que ce soit bien fait à la base. Il faut bien contrôler. Et il faut des gens consciencieux. Ils sont connus. Ils sont connus. On ne prend pas quelqu'un qui tombe du ciel ou de l'enfer pour aller dans une salle de classe. Il faudrait qu'ils soient bien identifiés et qu'ils fassent leur travail convenablement. Mais également, la petite prime qu'on leur donne, il faudrait que ceux qui vont bénéficier de cette prime sachent qu'ils travaillent, un, pour la République et deux, pour leur vente. Pourtant, ça ne suffit pas. Ce n'est pas avec cet argent de surveillance qu'on peut acheter une voiture ou une belle maison. Donc qu'ils acceptent de travailler pour la République et pour que notre diplôme soit honoré, qu'ils méritent ce qu'on attend. Voilà ce que nous pouvons dire à ce niveau.
Bien, il y a un auditeur qui a posé des questions par rapport aux élèves, par exemple des Goma où il y a eu l'éruption du volcan, Nyiragongo, les élèves étaient obligés d'interrompre les cours pendant un moment. Alors il se pose la question de savoir est-ce que le programme a été enseigné en son entièreté.
Oui, monsieur le journaliste, je vous le confirme parce que moi-même, je me suis déplacé. Je suis allé jusqu'à Goma. Je suis allé consoler nos jeunes compatriotes de ce coin-là. On les a déplacés de ce coin. On les a fait venir dans d'autres milieux où ils pouvaient étudier. C'est vrai, ils sont stressés. Ça, il faut le remarquer. Même aujourd'hui, vous pensez qu'après 3, 4, 5 mois, on a bandé les blessures? Je ne le pense pas. Mais il faut les sensibiliser. On les a aidés psychologiquement à se dépasser. Les enseignements ont été assurés. Mais vous savez qu'avec le programme, si on nous demande 220 jours, mais il y a un minimum. Il y a un minimum accepté. Et ce minimum a été atteint. Nous avons demandé les rapports des inspecteurs provinciaux, de tous les autres partenaires éducatifs. On nous a rassurés qu'on peut aller dans ce sens-là. Et je ne crois pas qu'en ce moment précis, on puisse encore se plaindre de ce côté-là. Bien. Voilà, c'est vrai, ils ont été traumatisés, mais nous pensons qu'on peut le remettre également dans le giron. Attendez. Est-ce que vous croyez fermement que si ces gens ne passent pas leur session d'examen d'État comme tous les autres, ils seront consolés? Mais je crois que nous risquons d'ajouter des blessures sur des blessures. Parce qu'eux-mêmes sont prêts. Ils nous ont rassurés que nous avons étudié, les enseignements, le programme ont été couverts, il y a lieu, qu'on le remette également dans notre système. Au lieu de les laisser pour compte, c'est encore aggraver la situation.
Bien, voilà. Monsieur l'inspecteur, nous avons appris qu'il y a des inspecteurs qui sont en même temps promoteurs d'école. En cette période, ils s'organisent pour faire fuiter les items et ouais, pour que les élèves de leurs écoles fassent 100% comme ça se fait régulièrement. Alors comment mettre hors d'état de nuire ces inspecteurs qui sont en même temps promoteurs d'école?
Ils sont dans mon viseur. Je connais quelques-uns, les autres, je crois que vous allez continuer à les dénoncer. Il n'est pas normal. Peut-être à la longue, nous devons chercher à remettre les choses sur les rails. On ne peut pas être promoteur, inspecteur, préfet à la fois, comptable. Nous arrivons dans une école, c'est madame qui est comptable, le promoteur est préfet lui-même, ça c'est... C'est du jamais vu. C'est pas bon. Bon, nous avons trouvé le système, il faut le combattre. Moi, je vais avec le temps. Si Dieu me donne la grâce, encore le temps, d'être là pendant les 2, 3, 4 mois qui suivent, nous devons mettre les choses sur les rails. Ou vous êtes promoteur, ou vous êtes inspecteur. Inspecteur cumulaire, comme vous le dites là, il ne doit pas être accepté. Il doit être éjecté. Il va s'occuper de son école comme commerçant, ou plutôt comme promoteur, mais non pas comme opérateur pédagogique au titre d'inspecteur. Ça, il faut le dire. Quant au travail qu'ils font, celui que vous êtes en train de dénoncer, ils se mettent à chercher à obtenir des cahiers d'items. Ça se fait. Je ne peux pas me voiler la face. Cela se fait, mais nous devons le combattre. Nous allons dans le sens de combattre cela. Celui qui sera attrapé la main dans le sac, bah, il payera. Il payera cher. Mmh. On annule. On annule. Je l'ai fait pour certains centres, vous l'avez appris. Et là, on le fait sans état d'âme. Ce n'est que dans ces conditions-là que nous pouvons espérer redresser notre système éducatif. Ne pas tolérer les antivaleurs. Même mes collaborateurs immédiats, inspecteur général adjoint, inspecteur principal, si vous êtes attrapé la main dans le sac, on vous fout à la porte. Point barre.
Point barre.
Et s'il faut aller au-delà, oui. On y va. Merci.
Serge Bondedi, votre réaction par rapport aux propos de l'inspecteur général?
Je l'ai suivi avec beaucoup d'intérêt et je souhaite assez que cela se matérialise. Surtout quand il parle de surveillants, je crois que sur la table du ministre de l'EPC, nous avons déposé il y a, je crois, près de 2 mois, une fiche technique qui fait des propositions pour l'amélioration de la gouvernance de l'institution examen d'État, les conditions de participation et d'accès. Et je crois que M. l'inspecteur général qui est avec moi en ligne dans cette émission, il nous accordera le moyen pour nous entretenir. Nous avons proposé sur cette fiche technique exactement, et vous connaissez, c'est une habitude que nous faisons depuis 2 ans déjà, sur l'observation citoyenne de l'examen d'État. Nous sommes une organisation privée, nous avons souhaité assez que le ministère, dans le cadre du partenariat, puisse accompagner cette idée. Et c'est ainsi qu'au début, je vous ai dit, au début de mon intervention, qu'on a souhaité qu'il y ait vraiment le redressement, mais nous avons comme l'impression que les intérêts se portent ailleurs. Donc, puisque M. l'inspecteur général a parlé des surveillants, il y a encore du temps, les organisations de la société civile, nous sommes là.
Pour observer, vous voulez aussi observer comment ça se passe et dénoncer les cas de tricherie.
Effectivement, parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui se posent lors de l'examen d'État. Vous avez la qualité des surveillants, M. l'inspecteur général l'a dit, nous devons quand même, on ne se mettra pas comme des policiers, mais du moins noter le faiblesse sur base des orientations qui sont données par le pouvoir organisateur, en fonction de la réglementation. Est-ce que telle personne qui surveille a qualité de surveiller pour rapporter tous ces éléments au pouvoir organisateur et à l'organe technique des évaluations qui est l'inspection générale, de manière à rectifier les tirs. Donc, je l'ai dit avec beaucoup de soucis parce que Monsieur l'inspecteur général sait qu'il y a plusieurs fois les rendez-vous donnés à Imaé n'ont pas tenu. C'était spécialement pour aborder
cette question-là. Bon, il est en ligne. Monsieur Odia Moussungaï, qu'est-ce que vous pouvez dire à Serge Bondedi à ce sujet?
Entièrement le point de vue et la vision de notre frère qui est avec vous au studio. J'ai dit tout de suite là, je vous l'ai dit, je suis prêt à prendre toutes ces observations. Tout celui qui a une stratégie pour redresser notre système éducatif, il sera le bienvenu. Il a dit qu'il a déposé un cahier de charge, je crois, quelque chose comme ça, sur la table du ministre. On me l'a envoyé, bon, ça m'est parvenu en retard, mais j'ai trouvé des bons éléments, des idées à prendre là-dedans. Je l'attends, on va se voir. Effectivement, le temps ne nous a pas permis d'être avec lui. Peut-être qu'il sait comment je travaille. Je suis au four et au moulin. Je venais d'arriver aux commandes de l'inspection générale il n'y a pas longtemps. Beaucoup à faire, beaucoup à dire, mon frère. Il n'a pas tort de le dire. Il a raison. Soyons ensemble pour redresser notre système éducatif.
J'ajoute un élément. Oui.
Il ne s'agit pas seulement des surveillants. Il s'agit également d'autres intervenants. Je parle de parents eux-mêmes. Vous avez suivi dans certains coins de ce pays où les parents se portent eux-mêmes surveillants. Ils chassent surveillants, ils chassent inspecteurs, chefs de centre et même inspecteurs provinciaux. Ils viennent avec des massues dans le centre pour chasser tout le monde et c'est eux qui organisent. Heureusement, tout ce que nous avons pu faire, c'est d'annuler totalement, complètement ces épreuves-là. Donc, c'est tout le monde qui participe à ces antivaleurs. Les politiciens même, il l'a dit. Je crois qu'il l'a dit, s'il ne l'a pas dit, mais c'est quelqu'un d'autre qui me l'a dit. Eux-mêmes aussi qui disent, voilà, ça c'est mon coin, aidez-moi, savez-vous, ouais, c'est mon électorat, ainsi de suite. Donc, le mal est là, nous devons le combattre. Tous, nous devons le combattre. Je partage son point de vue. On y va.
Bien, vous partagez son point de vue. Voilà, examen d'État édition 2020-2021, comment réduire les risques de fraude et de tricherie. On a suivi nos deux invités s'exprimer là-dessus. Alors, Monsieur Odia Musungai, quel message vous adressez à tous les élèves qui se sont préparés, aux parents, aux promoteurs des écoles, aux inspecteurs, par rapport à la grande session qui va démarrer ce lundi?
Ceux qui se sont préparés, comme il se doit, réussiront. Il n'y a pas de miracle et on ne vient pas avec des questions de l'enfer. Ce sont des questions qui viennent du programme. Ceux qui se sont préparés réussiront. Ceux qui n'ont pas préparé, je les aiderai à échouer. Et alors, leurs parents et à tous les autres, je demande cette sérénité, collaborer, coopérer pour que les choses se passent comme il se doit. Évitons les antivaleurs, même s'il y a 30% de réussite, j'ai l'habitude de le dire. Si dans l'ensemble nous avons 30% de réussite, c'est, il faudrait que ça soit l'image même de notre système éducatif. Si c'est 60, mais alors que ça soit 60. Objectivement, n'allons pas dans le sens de tripatouiller, comme il vous l'a dit, lors de la délibération jury, on dit non, les politiques voudraient qu'on ajoute. Bon, je n'ai pas encore assisté à ce genre de jury, mais j'espère que si ça se fait, je crois que si ça se fait de cette façon-là, cette année, je vais l'inviter, il verra mon point de vue. Je ne partagerai pas un tel point de vue. Restons objectifs, que ceux qui réussissent, réussissent, que ceux qui échouent, échouent. Et comme ça, nous aurons tous encore l'occasion de revenir. On dira, voilà, ici, ça n'a pas marché, nous corrigeons pour que les choses s'améliorent dans le futur. Et voilà mon message.
Bien, Monsieur Odia Musungai, inspecteur général de l'enseignement primaire, secondaire et technique, merci.
Merci à vous.
Serge Bondedi, votre message également aux élèves par rapport aux examens, aux épreuves qui démarrent le lundi?
Oui, c'est que je peux adresser comme message aux amis, les jeunes, adolescents, c'est d'affronter ces évaluations avec assurance et vraiment détermination, avec confiance en soi. Il est important qu'ils sachent que il faut obtenir un diplôme mérité, ça les aidera dans le reste de leur vie. Ceux qui vont se présenter devant eux pour leur faciliter les occasions de tricherie, ils ne sont pas en train de les aider. Ils doivent savoir qu'ils sont le premier agent de leur épanouissement, de leur éducation, de leur formation. Et nous avons aussi reçu beaucoup de messages des adolescents qui sont traumatisés par des messages véhiculés par un groupe de syndicalistes suite aux problèmes, aux dilemmes qu'il y a entre l'UGF et le ministère de l'EPST sur la gestion des finances. Le message des syndicalistes selon lequel ils vont boycotter l'examen d'État, ils doivent être rassurés. L'examen d'État, c'est une institution de l'État. Alors, je crois que les autorités du ministère doivent interpeller ces partenaires éducatifs qui se permettent à lancer de messages de menaces contre l'examen d'État qui risque d'avoir des conséquences néfastes sur le droit à l'éducation des enfants. Donc il faut rappeler à l'ordre ces genres de responsables syndicaux qui s'hasardent à dire des choses comme ça et rassurer surtout les enfants que l'examen d'État, donc la session ordinaire, va bien se dérouler et je crois qu'on s'activera pour pouvoir appuyer le gouvernement à faire avancer les choses parce que il y a beaucoup de problèmes dans l'examen d'État et qu'il y a même de ces problèmes que l'État semble ne pas résoudre, qui
d'accord.
appelle aussi aux antivaleurs.
Merci Serge Bondé, du coordonnateur de la campagne Ecole Zamboumbongoté. À la prochaine.
Merci, monsieur Joly.